Vous écoutez RTL.
Pour RTL Monde et la première escale, on commence avec l'Éthiopie où on vient de célébrer le Timkat, l'épiphanie dans un contexte politique tendu entre plusieurs ethnies du pays. Là-bas, 60% de la population est chrétienne, 30% musulmane. Et si les deux communautés ont toujours vécu pacifiquement, ces récentes tensions inquiètent. Le reportage de Daphné Brettenbach.
Dans la capitale éthiopienne, la foule se presse au rythme des chants traditionnels pour célébrer le Timkat, la plus grande fête religieuse de l'église orthodoxe majoritaire dans le pays.
Elias est l'un des diacres de cette église.
Le patriarche et tous les prêtres font la fête ensemble aujourd'hui. Les musulmans respectent cette célébration. Nous vivons en paix, il n'y a pas de conflit entre nous.
Là-bas, Haïlé Mariam est un haut dignitaire de l'église orthodoxe. Il représente cette dernière au conseil interreligieux du pays pour maintenir une paix entre les différentes croyances.
Bien sûr, parfois il y a des frictions, c'est normal, cela arrive même entre les chrétiens. Mais nous vivons ensemble en bonne entente.
À l'ouest d'Addis Abeba, c'est à Mercato, le plus grand marché à ciel ouvert d'Afrique, que de nombreux musulmans viennent prier. Ces derniers sont protégés par la police ultra présente ici depuis une attaque terroriste à la bombe perpétrée l'année dernière. La problématique éthiopienne actuelle est plus politique que religieuse, dans un contexte tendu entre l'ethnie tigréenne au pouvoir et les Oromos. Des tensions qui n'entravent pas la cohabitation entre chrétiens et musulmans, symbolisées ici par la proximité de la mosquée et de l'église.
L'église s'appelle Gabriel et la mosquée s'appelle Anwar. Les chrétiens et les musulmans vivent bien côte à côte, mais le gouvernement interfère trop dans ce secteur.
Jusqu'ici, ces frictions n'ont jamais mis en cause l'équilibre religieux du pays, une entente que les Éthiopiens semblent bien décidés à conserver.
RTL Monde.
RTL Monde.
Marc-Olivier Faugier.
Un chiffre dans le monde, 50. Le gouvernement britannique a publié aujourd'hui le projet de loi qui va soumettre au Parlement pour être autorisé à activer l'article 50 avant la fin du mois de mars. Vous savez, l'article 50, c'est ce fameux article qui permettra au Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne. Direction maintenant la Tunisie qui ne sait plus quoi faire de ses oranges. 560 000 tonnes sont attendues cette année, soit 40% de plus par rapport aux années précédentes. La faute ? Au climat, les professionnels du secteur réclament un plan d'urgence. Le reportage à Beni Khaled, dans la région du Cap Bon, où sont produites 80% des oranges tunisiennes, Perrine Massy.
Ici, on est dans ma ferme que j'ai héritée de mon père. C'est presque un hectare.
Un hectare qui croule littéralement sous les oranges. Cette année, Mehrez Aounallah s'attend à récolter 40 tonnes de fruits contre 25 l'an dernier. Une production record qui inquiète pourtant ce petit producteur. Car cette année, le marché est saturé.
Le problème, c'est que maintenant, les gens qui achètent, tu vas leur demander « Est-ce que je peux vous emmener mes oranges ?» Ils me disent « Non, bon, c'est pas maintenant, on n'a pas besoin parce que le marché est bloqué maintenant. » J'attends. Vraiment, je ne sais pas comment je vais faire.
À Tunis, les autorités affirment avoir anticipé. Elles comptent sur le traditionnel marché français qui représente 90% des exportations, mais visent aussi de nouveaux débouchés. Exporter par exemple vers la Russie ou créer une industrie de transformation des oranges. Mohamed Ali Jandoubi, directeur général du groupement interprofessionnel des fruits.
Qui dit orange, dit jus. Donc nous, interprofession, on va s'y mettre à partir de cette année. On va développer cette industrie du fruit pour avoir peut-être 10 000 tonnes qui seront industrialisées.
Mais les producteurs craignent que ces mesures soient insuffisantes. Alors, ils espèrent que les Tunisiens mangeront beaucoup d'oranges cette année. Sinon, c'est près de la moitié de la production qui pourrait finir à la poubelle.
Et on va terminer avec l'homme du jour ce soir. Vous en souvenez, en décembre dernier, il battait le candidat de l'extrême droite à la présidentielle autrichienne, l'écologiste Alexander Van der Bellen, a pris officiellement ses fonctions aujourd'hui. Alors son portrait avec vous, Pierre-Julien.
73 ans, lunettes à fine monture métallique, cheveux gris, courte barbe de 3 jours très bien taillée, cravate de grande marque. Nous voilà bien loin de l'image caricaturale de l'écolo. Son rival d'effet, Norbert Hofer, le traite d'ailleurs de gauchiste en habit bourgeois. Pourtant, Alexander Van den Bellen, ancien membre du Parti Socialiste Autrichien, a dirigé les Verts, dit Grünen, pendant près de 11 ans. Un record pour le pays, avant de démissionner en 2008. Si Alexander, ou plutôt Sacha le Tyrolien, naturalisé en 1958, milite pour une Europe multiculturelle, c'est certainement en raison de ses origines. Une famille russo-estonienne, aristocrate, ayant fui dans l'urgence au tout début de la Seconde Guerre mondiale, les sbires de l'Union soviétique de Staline.
Et ce nouveau président autrichien ne s'en laisse pas compter, Pierre, il l'a prouvé lors des débats avant l'élection.
Ainsi, il s'est dressé face à son adversaire ultra-nationaliste, lui assénant notamment lors d'un duel télévisé un trait remarqué « Je vous parle d'Europe, E-U-R-O-P-E ». Au fait, vous en avez déjà entendu parler, mais l'ancien professeur d'économie est aussi un pragmatique qui admet que son pays doit être désormais un peu plus sélectif envers les migrants.
Merci beaucoup Pierre-Julien.